Écriture dessinée. Bonjour Bruno.
Bonjour Fabien. Le dernier debout, Jack Johnson, fils d'esclave et champion du monde, est le dernier roman graphique, devrais-je dire plutôt biographie dessinée, de Youssef Daoudi. L'auteur a un parcours tout à fait étonnant. Il a fait des études de cinéma, il est directeur artistique dans une agence de com. Il doit donc faire du graphisme, du scénario et de la réalisation de spots. Et sa première bande dessinée a fait avec Philippe Bonifay, la trilogie noire d'après Léo Mallet, paraît au début des années 2000, en 2005. Une évolution importante en tant que dessinateur tout au long de sa carrière. Il va devenir aussi auteur, par exemple dans Tripoli en 2014. On sent toujours la dynamique de la création. En 2018, il publie seul Monk, une biographie dessinée également tout à fait remarquable, publiée aussi en même temps aux États-Unis. L'auteur a trouvé son format, une pagination libre, et le succès est là. Le dernier debout est le nouvel opus. C'est la première publication aux États-Unis qui a été faite par Leverwright Publishing Corporation, with accent. C'est avec un poète américain, Adrian Mateschka, que Youssef Daoudi a réalisé cette biographie dessinée. Nous serons avec le dessinateur, avec donc Youssef Daoudi, à partir de 14h15. A tout de suite. Écriture dessinée. Bonjour à toutes et à tous. Vous l'avez entendu, Fabien est aux manettes. La programmation musicale a été faite par Youssef Daoudi. Nous écouterons successivement Miles Davis, John Coltrane et Thelonious Monk. Une brève pour démarrer avec la réédition de Carla, qui est une histoire écrite par Jacques Loeb et mise en image par Edmond Baudouin. C'est une sorte de recueil de récits courts, mais pas seulement, parce que Carla va faire le fil conducteur, sera le fil conducteur tout au long de cette histoire, elle conduit un taxi. Elle est en vêtements de cuir noir et puis rencontre des personnes qui se confient à elle et qui sont plutôt déglinguées. Et on a une association entre ce scénariste assez exceptionnel qui est mort quelque temps après la publication de Carla en 1993 et que Futuro a eu la très bonne idée de rééditer, notamment pour fêter les 50 ans de cette maison d'édition. Une citation de Jacques Loeb que l'on trouve dans cette première édition. Jacques Loeb qui dit à Edmond Baudouin « J'aimerais faire quelque chose avec toi, tu dessines bien les femmes. » Et c'est vrai, et tout au long de sa carrière, Edmond Baudouin l'a montré. Il sera présent à la salle pour le festival Chant contre Chant. Il me semble que c'est le 11 mai. En tout cas, vérifiez sur le site du festival. Virgule. Je voudrais encadrer le livre donc de Youssef Daoudi et d'Adrian Mateschka avec d'autres récits où s'affichent soit des biographies dessinées, soit ces livres avec une matière narrative qui préexiste et qui permet aux auteurs de peut-être approfondir et travailler avec plus d'intensité leur mise en image et la mise en bande dessinée de ces récits. Commençons par Suzanne de Tom Humberstone. Et Suzanne, c'est Suzanne Langlaine, qui est une tenniswoman française, une joueuse qui est née en 1899 et décédée en 1938 et qui a joué au tennis au début du XXe siècle, avec un palmarès, je crois qu'on n'a pas eu vraiment d'équivalent. Elle a eu 241 titres, dont des titres en double, 181 victoires d'affilée sans défaite, 98% de matchs gagnés. Ce n'était pas des matchs de seconde zone. Donc c'était vraiment la numéro 1 mondiale et elle l'est restée pendant 8 ans. Donc faire la bio d'une telle célébrité n'est pas très évident, d'autant plus qu'elle a un physique. On ne peut pas dire que ça soit la beauté qui va être la première approche. Et donc, il faut représenter une femme avec ce profil plutôt disgracieux. Et Tom Humberstone va vraiment le faire avec talent, finesse, pertinence, qui fait qu'au début, on est un peu surpris quand on feuillette le livre. Et puis, on va rapidement se faire à cette présence, et notamment parce que Suzanne Lenglen est une femme assez exceptionnelle, non seulement par les résultats sportifs, mais aussi par la combativité dont elle a fait preuve. Alors, elle est entraînée par son père, qui est un peu l'équivalent de Colonel Parker pour Elvis Presley. Elle est une joueuse qui, malgré ce palmarès incroyable, n'a pratiquement pas été payée. Il a fallu qu'elle intègre un circuit de joueurs professionnels pour pouvoir commencer à toucher de l'argent. Mais elle a gagné plusieurs fois Wimbledon avec des recettes d'entrée très importantes et il ne lui est revenu rien. Donc, ce qui est quand même assez exceptionnel. Donc, il y a cette confrontation avec son père qui est très bien traduit. Et donc, on a une matière, une vie exceptionnelle qui fait qu'on rentre pleinement dans la représentation et dans ce choix de Tom Humberstone de vraiment la représenter telle que l'on peut la voir sur les photos. Et il y a un certain nombre de photos inédites dans un cahier photographique en fin de livre qui permet de se rendre compte, de découvrir qui était Suzanne Lenglen. Alors, j'ai quelques réserves sur le livre, notamment cette façon de représenter les gestes du tennis, de donner ces ambiances de match où on a un fractionnement de l'image, des volontés d'avoir des effets de mise en scène qui finalement n'apportent rien sur cette intensité qui est à retranscrire lorsqu'il y a de tels matchs et de tels affrontements. C'est dommage parce que il est impossible de dissocier Suzanne Lenglen du tennis et j'aurais aimé que l'efficacité narrative et la mise en scène que l'on a sur le reste de sa vie soient aussi efficaces sur les courts tennis. Et puis il y a une autre réserve qui elle est un peu plus embêtante. Tom Humberstone va faire des notes en fin de livre sur les quelques modifications qu'il a faites par rapport au déroulé, aux situations historiques, la chronologie des événements. Il y en a un peu plus d'une dizaine, mais on a quand même des modifications qui sont importantes, des matchs qui ont eu lieu quelques années après, qu'il met l'année où la joueuse de tennis, est à sa meilleure période. Donc il y a comme ça des événements qui vont changer de date, d'autres qui vont être passés sous silence, des localisations ou nominations d'un club, par exemple le club 300, où il y a donc ces sortes de cabarets et qui vont changer d'appellation. Ça fait beaucoup et c'est fait avec quand même beaucoup d'importance et c'est une réserve en tout cas, puisque eh bien, on perd de la crédibilité sur l'ensemble de cette biographie. Et c'est dommage parce que c'est vraiment un personnage à découvrir. Tom Humberston s'est donné de l'ampleur pour raconter le parcours de Suzanne Langlen. 216 pages, son prix c'est 22 euros, la traduction est de Margot Negroni, c'est traduit de l'anglais puisque Tom Humberston est un citoyen du Royaume-Uni, c'est publié par Ankama, qui est un auteur aussi de manga. Encore quelques réserves qui restent ou des choses passent pas. Les moustiques. Il y a eu un petit peu de mal au démarrage, des fois ça arrive, problème de vol. C'était Vincent Malone et ses moustiques. Je voudrais poursuivre par un autre livre qui a une matière narrative préexistante, c'est Le Feu et la Glace, qui est un roman graphique écrit par Jean-Luc Cornette, mis en image et en couleur par Jürg. Le Feu et la Glace est l'histoire d'un film qui n'a jamais existé et qui pourtant est un film qui aurait pu être exceptionnel. Le contexte, nous sommes le 17 juin 1929 à Berlin, George Wilhelm Pabst commence le tournage du journal d'une fille perdue avec Louis Brooks qui sympathise avec Marlène Dietrich qui leur rend visite. Une amitié-rivalité naît entre les deux jeunes femmes. Kurt Weill, qui est à Paris, appelle son ami Pabst. Il lui parle d'une chanteuse et comédienne noire extraordinaire, Adelaide Hall. Il faut qu'il la rencontre. Pabst pense tout de suite à un film avec elle et Louise. Mais Louise repart après le tournage aux États-Unis. Son billet sur le SS Homeric au départ de Cherbourg est réservé le 31 juillet. Alors, Weill et Pabst s'organisent. Ils mettent Bertolt Brecht à contribution, avec qui Weill a écrit et composé l'opéra de Katsu l'année précédente, et il écrit donc un scénario qui sera tourné sur le paquebot avec les trois comédiennes, Louis Brooks, Marlène Dietrich et Adelaide Hall. Ce film n'aura pas lieu, comme on va rapidement le comprendre, mais donc le récit est construit par Jean-Luc Cornette comme une sorte d'intrigue policière où on est sur les moments du tournage, sur la relation qui existe entre les trois femmes. Louise Brooks et Marlène Dietrich sont des femmes libres qui affichent et qui affirment leur liberté et leur émancipation. Ça ne plaît pas à tout le monde, c'est même pour l'époque carrément provocateur. Nous sommes en 1929 et donc il y a beaucoup de mouvements sur ce tournage et notamment auprès du chef opérateur Al Geyer. Il y a donc une matière narrative qui est présente, le cahier qui est en fin de livre va permettre d'avoir les quelques compléments d'informations sur cette période-là et sur le tournage du film. Et donc, on est vraiment, grâce à Jean-Luc Cornette, dans ces grands moments de ce tournage avec quelques repères sur les différentes actrices, leur parcours. Adelaide Hall, qui est peut-être moins connue, en tout cas que ses deux consoeurs, est une chanteuse qui a enregistré un très grand nombre de disques, qui faisait partie des Bad Girls de 1928 et qui donc a une présence aussi très forte, et le livre permet de représenter ces parcours de ces trois femmes et ces moments dans le film. Alors, Jörg est un dessinateur qui a un dessin particulier, qui a un travail au trait qui permet de représenter avec une immédiate efficacité chaque situation, chaque scène. Il va utiliser un lavis noir et blanc pour représenter les scènes qui sont filmées. Le reste sera mis en couleur. Et il y a cette façon de capter les ressemblances comme celle de Marlène Dietrich ou de Louise Brooks, dont on a beaucoup d'images en mémoire. Il y a une qualité aussi d'organisation de la narration, avec un découpage et un cadrage d'une grande efficacité, et c'est facile de perturber cette fluidité dans le récit. Et là, il y a une attention particulière portée par Hugh qui sent bien ce récit et cette façon, cette nécessité de capter le lecteur pour le conduire jusqu'à la fin du récit. 88 pages, c'est presque trop court pour raconter une telle histoire. On aurait un peu envie d'avoir peut-être un peu plus de contexte sur cette situation particulière de 1929. Et il y a en tout cas des scènes assez étonnantes. La façon dont le film a disparu, ça reste à découvrir dans le livre. Le feu et la glace, donc un scénario de Jean-Luc Cornette. Dessin et mise en couleur de Jörg, c'est publié par les éditions Futuropolis. Les 88 pages de ce récit sont au prix de 20 € et le livre a été imprimé en Belgique. Le dernier debout, dont le titre original est Last on His Feet, s'ouvre sur les deux trames narratives constitutives de ce récit. D'abord, celle d'un boxeur évoquant les combats des débuts et parlant à la première personne, puis celle de ce combat du 4 juillet 1910, le combat du siècle à Reno, Nevada, où Jeffries affronte Johnson, un blanc contre un noir. Jack Johnson, fils d'esclave et premier champion du monde des poids lourds. C'est lui qui parle à la première personne. Il raconte son histoire après avoir dominé le ring, après avoir été arrêté, jugé pour violation de la loi Mann condamnant les relations interraciales, après sa fuite au Canada, en Europe, pour échapper à la prison. Le dernier debout est l'histoire de l'Amérique, de la ségrégation, d'une guerre de sécession encore dans les mémoires et que le Sud n'a pas acceptée. Youssef Daoudi signe cette biographie dessinée de Jack Johnson, mais aussi de la boxe en 1910 et de cette Amérique à l'aube de celle d'aujourd'hui. Après Monk, écrit en tant qu'auteur complet, Youssef Daoudi s'associe avec le poète Adrian Mateshka, auteur de The Big Smoke, un recueil de poèmes sur Jack Johnson, le boxeur. Du dialogue entre les deux auteurs naît ce récit à la première personne où un jeu puissant, affirmé, commente le combat, sa carrière et cette Amérique blessée par cette violence raciale endémique. Youssef Daoudi entrelace les différents temps de la narration, intègre les marqueurs historiques de l'époque du combat, une de journaux, pubs, programmes. Il crée différentes polices de caractère pour intensifier les scènes et notamment celles du combat où les insultes raciales pleuvent. Tout au long de sa carrière, Youssef Daoudi a fait évoluer son écriture dessinée, explorant les mécanismes de la narration en images. Avec Monk, il trouva le format, la pagination et la précision de son écriture. Le dernier debout confirme l'intensité de cette écriture dessinée qui invente encore d'autres solutions pour écrire et dessiner cette époque qui révèle notre modernité. Bonjour Youssef Daoudi. Ah, je ne vous entends pas. Youssef Daoudi, êtes-vous avec nous? Non, ce serait bien dommage.
Est-ce que vous m'entendez? Allô?
Ah, allô, ça y est, je suis content de vous entendre. On a eu un moment de doute.
Je suis désolé.
Non, vous inquiétez pas. L'important, c'est que vous soyez là. Alors, j'ai fait une présentation donc de votre livre, Le Dernier Debout. Alors, il y a eu pour Monk une édition américaine également. Là, on a une première édition qui sort aux États-Unis. C'est un conte de fées, c'est cette possibilité d'avoir ces deux éditions simultanées aux États-Unis et en France. Comment ça s'est passé?
Écoutez, pour vous dire, l'Astantifique est sorti l'année dernière aux États-Unis. Donc il a d'abord été édité aux États-Unis. Quant en ce qui concerne Monk, ben, je l'ai écrit en anglais. Donc il est sorti aux États-Unis en 2018, mais très très vite après, il est sorti en France. Oui, c'est un conte de fées, j'adore cette façon de jouer entre les langues, comme ça, j'en parle plusieurs, donc c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, la culture mondiale m'intéresse, je suis une espèce de cosmopolite, si vous voulez.
Alors, Youssef Daoudi, vous collaborez avec Adrian Mateshka, un poète américain qui a écrit donc sur Jack Johnson. Comment s'est fait cette rencontre avec lui?
Bien, c'est Adrian qui est venu me chercher avec son agente aux États-Unis. Ils sont Adrian qui n'est pas scénariste, hein, il est poète, mais voulait absolument raconter cette histoire dans un roman graphique, ou faire ce portrait, comme j'aime bien à l'appeler. Moi, ce qui m'a séduit dans cette collaboration, j'ai dit oui, ce qui m'a séduit, c'est la poésie. C'est le fait d'essayer d'expérimenter encore une fois ce que peut nous offrir le médium, qui, quand on ne se rend même pas compte des possibilités infinies, et de travailler cette hybridation que l'on peut voir dans le bouquin. C'était ça qui m'a intéressé. Et lors de cet échange avec Adriane pour faire le bouquin, il s'agissait de mettre en avant quelque chose de très important, c'est la voix. Dans n'importe quel récit d'ailleurs, la voix est super importante. Et donc il fallait installer une voix comme ça, omniprésente, rythmée aussi, palpitante, qui va entraîner le récit. Ça fait partie des ressorts narratifs.
Alors, comment c'est concrétisé cette collaboration, Youssef Daoudi? Parce que on a effectivement le jeu puissant de Jack Johnson qui raconte sa vie alors qu'il a vécu déjà des choses très importantes, mais parce que c'est le premier roman graphique d'Adrian Malteschka. Comment avez-vous fonctionné? Quels documents il vous livrait, par exemple? Est-ce que vous avez décidé de la suite dialoguer ensemble? Comment s'est passé ce côté cuisine?
Tout a été décidé de conserve. C'est-à-dire que je ne recevais pas de documents, en tout cas je ne recevais pas un scénario d'Adriane. C'était plutôt des bribes de textes, d'abord des poèmes, très très importants. J'en commandais quand il était nécessaire pour telle ou telle scène. Nous sommes mis d'accord ensemble sur une ossature générale, grosso modo, la décision par exemple d'utiliser les rounds comme un instrument de chapitrage, de découpage, c'était évident. La dramaturgie de la boxe est là, toute prête, donc pourquoi ne pas l'utiliser directement? Et ensuite, voilà, ce que je suis en train de dire, c'est une longue conversation. Et quand je dis longue conversation, c'est sur des années et des années et des années. Qui a fait que nous nous sommes échangé des textes, nous nous sommes échangé des documents, nous nous sommes échangé des références bibliographiques, des photographies, des extraits de journaux, etc. etc., etc. Tout ça s'est fait en même temps, d'une certaine façon. Et c'est pour ça que l'écriture, en ce qui concerne notre médium, le dessin est une écriture. Et c'est pour ça que il y a un terme qui parfois m'agace, celui d'illustration. Il n'a absolument pas sa place dans ce qu'on fait quand on fait ce genre de livres, de bandes dessinées, de romans graphiques, de romans dessinés, appelez-le comme vous voulez. D'ailleurs, l'émission porte bien son titre. Et tout doit être en synergie d'une certaine façon. Et c'est pour ça que cette écriture s'est faite comme ça, à partir de conversations, évidemment, à partir de textes et de dialogues. Mais le découpage s'est fait de conserve, j'allais dire même qu'il a pris 80% du temps. C'est cette espèce de découpage, de pré-montage d'une certaine façon, puisqu'on ne monte pas une bande dessinée a posteriori, pour installer les endroits où viendront tel mot, telle chose, tel poème, telle réplique, etc., etc. Installer cette rythmique un petit peu à la façon de ce que ferait un musicien, particulièrement un musicien de jazz.
Alors, c'est un récit d'ampleur. Le livre fait 328 pages. Comment avez-vous gardé cette vision d'ensemble? Est-ce que il y avait une sorte de contrôle, ou est-ce qu'il y avait une écriture plus spontanée avec les quelques repères, par exemple, sur les rounds de ce match du siècle?
Vous savez, pour justement, je vous remercie pour cette question. J'ai toujours l'ensemble du bouquin sous les yeux. Alors j'utilise plein d'outils pour ça, que ce soit des outils informatiques, du papier, ce que vous voulez. Et je ne perds jamais de vue tout le bouquin, c'est-à-dire les 300 pages en même temps, je les regarde. Et du coup, il se trouve que j'aurais pu, et j'ai laissé faire certaines séquences qui se passaient, on va dire, vers le dernier tiers, bien avant que je fasse des séquences qui se passeraient au premier tiers. Pour quelle raison ? C'est parce que je voudrais savoir quel serait l'écho de telle séquence au début. Est-ce qu'elle a bien été préparée au début ? C'est cette espèce de travail de planification que ferait un romancier, le fameux prémontage dont on parlait tout à l'heure, qui fait qu'il n'y a quasiment pas de place au hasard, si ce n'est, naturellement, que souvent, au cours de ce processus, il y a beaucoup de bonnes idées, d'épiphanies comme ça qui arrivent à une certaine étape du projet, qui n'est jamais figé en fait. C'est toujours fluide et, et global, d'une certaine façon. Ce qui permet de se dire, tiens, peut-être que là je vais doser plus cette partie-là, on va mettre un peu plus de références historiques là, il ne faut pas oublier de parler de Jeffries et de l'historique de Jeffries, Jeffries donc étant le fameux
c'est l'adversaire.
Voilà, l'adversaire, et qui est l'espoir blanc, d'une certaine façon. The Great White Hope n'est pas, dans notre livre, une espèce de croque-mitaine. C'est un vrai personnage, en fait. C'est un personnage avec son humanité, avec ses enjeux, avec sa dignité aussi, contre Jack Johnson. Donc, tout n'est, si je puis me permettre, tout n'est pas blanc ou noir dans l'histoire. C'est ça qui est intéressant.
Youssef Daoudi, c'est un livre éminemment politique. Nous sommes au début du XXe siècle. C'est une période que la littérature a beaucoup, sur laquelle elle a beaucoup travaillé, comme par exemple Denis Lehane avec Un pays à l'aube. Donc là, on a une violence raciale qui est très importante. Comment avez-vous dosé avec Adrian Mateschka cette dimension politique?
Eh bien, il fallait, donc d'abord, ce n'est pas une hagiographie ou un livre qui parle de Jack Johnson comme victime, du moins pas essentiellement. Le dosage, tout est là. Tout est une question, justement, de où placer quoi et comment, et est-ce que c'est justifié, etc., etc. Ne pas rester sur quelque chose de générique. C'est-à-dire, voilà, dans ce portrait de ce nouveau siècle aux États-Unis, où on a ces espèces d'émergence, au pluriel, l'automobile, l'argent dans le sport, la célébrité, le cinéma, toutes ces émergences sont là pour installer le portrait. Et donc il fallait, pour la question raciale, d'une part ne pas se voiler la face et ne pas la jeter comme ça aux yeux du lecteur de façon générique ou gratuite, mais de la faire travailler dans une articulation avec ce qu'en pensait déjà Jack Johnson. On est dans un chapitre où on a un poème qui s'appelle Africa ou Afrique, l'Afrique. Et si les insultes raciales sont là, c'était aussi pour montrer, vu qu'on est dans ce besoin ou ce désir de faire ce portrait, donc il y a l'aspect des documentaires, et donc montrer aussi comment Jack Johnson et tous les Africains américains par ailleurs étaient représentés dans les journaux avec des grosses lèvres, avec cette espèce de caricature qui ne cache pas ses intentions. Donc il fallait montrer ces choses, mais il fallait le faire, préparer le lecteur à les voir, à les entendre, et à montrer effectivement la position de Jack Johnson par rapport à tout ça. Jack Johnson qui d'ailleurs n'était pas un activiste, on n'était d'ailleurs pas encore à l'époque de la lutte pour les droits civiques, mais Jack Johnson était un vrai Américain, dans la mesure où c'était un quelqu'un qui recherchait le succès, un individualiste, un ambitieux, quelqu'un qui défiait la diversité. Donc quelque part, tout cela tombe sous le sens.
Youssef Daoudi, je vous propose une pause musicale. Alors, vous avez choisi John Coltrane, c'est parfait. On se retrouve dans quelques minutes et puis on reprend notre discussion sur Le Dernier Debout. À tout de suite. Vous êtes sur Radio Escapade dans l'émission Écriture dessinée. Nous sommes en direct avec Youssef Daoudi, qui est le dessinateur et auteur de Le Dernier Debout, Jack Johnson, fils d'esclave et champion du monde, coécrit avec Adrian Mateschka. Youssef Daoudi, depuis vos débuts en bande dessinée, votre dessin a beaucoup évolué. Avec Monk, par exemple, on a découvert un dessin plus énergique, aux traits plus tendus. Et ça se confirme avec donc Le Dernier Debout. Comment s'est fait cette évolution et qu'est-ce que vous permet cette énergie dans le dessin ?
Eh bien, écoutez, c'est la liberté, tout simplement. C'est-à-dire, je pense qu'à un moment donné, je me suis départi d'un certain nombre de références ou de révérences aussi à toutes ces bandes dessinées qui m'ont fait grandir, enfin que j'ai lu en grandissant quand j'étais petit, etc. Et ce nouveau corpus graphique me permet aussi d'explorer d'autres émotions, d'aller chercher encore une fois une écriture particulière, ce que peut-être ne permet pas une certaine forme de canonique de la franco-belge. Donc moi je suis très très heureux de ça parce que ça m'a ouvert la voie aussi à une autre narration aussi. l'absence ou quasi, la quasi-absence de la couleur, même si elle est utilisée de façon monochromatique par exemple, permet aussi d'aller à l'essentiel, d'aller vers certaines thématiques graphiques bien particulières dans lesquelles je me retrouve et qui me permettent d'exprimer certains aspects que je ne pouvais peut-être pas faire avec l'autre versant, on va dire, du dessin ou de la façon de faire des pages.
Youssef Daoudi, quel dessinateur êtes-vous? Comment ça se passe sur votre table à dessin? Est-ce que vous reprenez? Est-ce que vous recommencez? Comment êtes-vous?
Il y a beaucoup de choses qui sont spontanées et paradoxalement d'autres beaucoup plus laborieuses. Tout dépend du dessin en particulier. Moi, je pense que je ne suis pas un dessinateur naturel, en tout cas pas compulsif. Si je dessine, c'est pour raconter des histoires, et seulement pour ça. Je ne vois pas beaucoup l'intérêt de, pour moi, hein, je parle de moi bien sûr, de me contenter juste d'un dessin comme ça à part ne me suffit pas. Il faut qu'il y ait peut-être une espèce de voix ou de mouvement ou de quête homérique dans la succession des dessins. Et quelque chose qui est super importante. Quant à je suis entre vraiment la spontanéité où je reviens même pas sur l'ancrage qui est posé dès le départ, et puis d'autres choses sur lesquelles naturellement demande un peu plus un dessin un peu plus posé ou peut-être une documentation plus sérieuse. Quelques petites esquisses préparatoires, etc. Donc c'est entre les deux, ça peut être l'un ou l'autre.
Youssef Daoudi, le dernier debout, utilise un grand nombre de caractères, d'écritures différentes que vous avez dessinées en très grande partie. Alors, on a aussi bien sûr, les dialogues, mais les insultes que l'on peut entendre pendant le match, qui sont extrêmement virulentes, ont leur caractère propre. Toutes les unes qui sont reprises, les unes de journaux, la caricature, là aussi, que vous apporte ce soin particulier et cette précision dans l'écriture des textes de votre biographie dessinée.
Oui, alors toutes les polices, naturellement, sauf celle qui est une letterpress, je crois, qui concerne donc les poèmes, ou la voix, voilà. On va dire la voix du bouquin.
Très belle police, d'ailleurs.
Qui est très très belle, de toute façon, pas besoin de la dessiner, celle-là. Et ça, c'est mon passé de directeur artistique et de graphiste, donc j'ai fait ça pendant des années et des années, créer des faire des livres, des campagnes de publicité, etc. etc. Donc on tombe amoureux de la chose graphique, de la beauté de la typographie, etc. Et je pense que le fait de dessiner des polices spécifiquement pour des projets, ce que je fais assez souvent, me permet effectivement d'avoir une cohérence graphique générale. On parlait tout à l'heure, par exemple, du fait de faire une graphie particulière sur les insultes, reprendre les unes de journaux, parce que, quelque part, le fait de numériser quelque chose, ou de scanner, quel horrible mot, et de le placer comme ça à côté de dessins, à côté de quelque chose qui est d'ordre organique, c'est-à-dire fait à la main, quelque part, pour ma part, ça fait que ça jure un petit peu, c'est incohérent. C'est le désir d'obtenir une cohérence graphique tout au long du bouquin, qu'il n'y ait pas des choses qui vont être de trop, ou des pièces rapportées, ou qui arrêtent la lecture de la chose. Voilà, c'est juste un amour de la chose graphique qui fait que je je passe encore un peu plus de temps à faire ce genre de choses.
Il y a dans Le Dernier Debout, Youssef Daoudi, cette représentation de la boxe, qui est un art peu représenté en bande dessinée. Il peut y avoir un certain nombre de difficultés. Comment ça s'est passé pour vous? Qu'est-ce que vous avez dû dépasser comme difficulté?
Il suffisait pour moi, la boxe, j'adore regarder le sport par ailleurs. Mais je pense que la boxe est une danse. Et du moment que c'est une danse, que c'est pas forcément l'aspect quelqu'un frappe sur son adversaire, j'ai d'ailleurs beaucoup de plans où on voit les pieds, les jambes, parce qu'en fait, ce qui m'a intéressé dans la boxe, c'est plutôt le côté dansant. Et de par ma passion pour la musique et pour le jazz en particulier, c'est ce côté, encore une fois, de rythme, de pulsation, qui a fait que, effectivement, je trouve ça très beau et que, franchement, c'est les dessins les plus faciles à faire.
Quelle est l'ambiance musicale quand vous travaillez? Vous parlez de jazz, on passe trois morceaux que vous avez choisis. Vous travaillez en musique ou non?
Je travaille un petit peu en musique, mais beaucoup plus ces derniers temps. J'écoute des podcasts beaucoup plus, et je vais vous dire rapidement pourquoi, parce que en fait la musique c'est superbe, c'est quelque chose qui m'a accompagné toute ma vie, mais il y a ce genre de sorte d'humeur, on va dire, c'est-à-dire qu'on aura un morceau qui va nous amener vers des hauteurs insoupçonnées, et puis le morceau d'après va nous descendre. Et c'est quelque chose que je n'aime pas trop quand je suis en train de travailler. Donc j'écoute des heures et des heures de podcasts. D'abord parce que j'apprends des choses, ou parfois il y a des choses amusantes. Et puis il y a ce côté monocorde de la voix humaine qui fait que je reste sur une espèce de rythmique qui est bonne, etc. Naturellement, je vais lancer un petit Michael Brecker ou comme tout à l'heure on vient d'écouter Coltrane avec Resolution. C'est un album merveilleux. Quand on voit le quartet, quel quartet c'était sublime. Donc ça, c'est quelque chose. Un album comme celui-là, j'ai pas de problème avec, parce que ça ne descend pas trop peut-être de rythme, mais pas d'intensité. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. C'est l'intensité doit être là de façon constante.
Youssef Daoudi, quel est l'après, Le Dernier Debout? Qu'est-ce que ça a changé, par exemple, pour Adrian Mateschka, qui a réalisé donc son premier roman graphique? Et pour vous, qu'est-ce que va ouvrir comme horizon ces 328 pages ciselées où les récits et les trames narratives s'entrecroisent pour cette intensité du récit?
Écoutez, pour Adrian, je ne saurais vous dire, mais il a beaucoup apprécié l'expérience. D'abord, j'ai réalisé un autre portrait, on va dire, celui d'Orson Welles, qui va sortir à la rentrée.
Ah, c'est une bonne nouvelle.
Tout se passe bien. C'est vraiment un livre-thèse sur ce génie peut-être pas apprécié à sa juste valeur, on va dire. Mais encore une fois, quand je m'intéresse à un personnage ou à un sujet, généralement, c'est un prétexte quelque part pour parler de la condition humaine, pour parler de nos obsessions, pour parler de ce qui fait l'être humain, quoi. Qu'est-ce qu'il pousse, pour donner du sens finalement. C'est pas forcément le fait de porter le drapeau de ce personnage en particulier. Donc Orson Welles, oui, je suis très très heureux de, de, de l'avoir fait aussi dans la foulée de Last on His Feet. Qu'est-ce que ce genre de bouquin va offrir comme opportunité? Bon, d'abord, c'est continuer les expérimentations, continuer les explorations du médium. Encore une fois, il y a tellement de choses à faire là-dessus. Effectivement, la pagination ne peut pas être illimitée. Mais enfin, le fait quand même de sortir du fameux format de 46 pages, le fait même d'avoir moins de dessins sur une page, non pas parce que c'est esthétique, mais c'est aussi la narration. Dans Last on His Feet, j'ai toujours tenu à faire cette espèce de récompense, soit la surprise à page gauche, c'est-à-dire quelque chose qui va faire qu'on va tourner la page, donc toujours réserver quelque chose pour cette page qui se tourne, réserver une réplique, réserver quelque chose, une... Et puis aussi récompenser un petit peu le lecteur à chaque fin de chapitre, autant que je pouvais le faire. Ça, c'est des choses que je cherche à pousser. Puis, tellement de choses à faire aussi au niveau de l'hybridation entre texte, image, voire même photo, pour effectivement créer une musique, créer une sonorité, créer des choses, et toujours en étant entièrement, en endossant entièrement le fait que c'est une bande dessinée, que c'est un roman graphique, et que ce n'est pas du sous-cinéma, c'est-à-dire ce n'est pas fait pour ressembler à quelque chose qu'elle n'est pas. Il faut faire les choses pour le médium, pour que le médium puisse effectivement s'exprimer dans toute sa puissance, et il a cette puissance-là. En tout cas, moi j'y crois.
Merci beaucoup Youssef Daoudi. Je vais rappeler les références de votre livre. Donc, Le Dernier Debout, Jack Johnson, fils d'esclave et champion du monde. Écrit avec Adrian Mateschka, poète américain. C'est publié par les éditions Futuropolis, traduit par Stéphanie Van Driss. Et les 328 pages de ce récit sont au prix de 30 €. Et le livre a été imprimé en France. Très bonne continuation et on sera en rendez-vous pour votre Orson Welles. À bientôt, merci. Youssef Daoudi.
Merci. Merci beaucoup, merci de m'avoir. Merci.
Au revoir. We'll be right back. Voilà, c'était Écriture dessinée. La semaine prochaine, nous serons avec Émile Bourget, qui est l'assistant réalisateur du film d'animation, un des très grands classiques du film d'animation en France, et pas seulement, qui a été donc réalisé par Paul Grimaud. Eh bien, très bonne semaine à tous sur les ondes de Radio Escapade. Écriture dessinée.